L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine, présentée par Fabrice Coustet.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Patrimoine. Vous le savez, l'Hebdo Patrimoine sur Radio Patrimoine, la première web radio 100% digitale dédiée à la finance, à l'économie, à l'épargne. Et avec nos experts, avec nos invités, chaque semaine, on décrypte l'immobilier, l'économie, la bourse. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'éducation financière. Alors, les Français sont-ils nuls en finance? Pour répondre à cette question, on a des experts, mais on va se poser plutôt la question, puisqu'on sait que les Français épargnent beaucoup, toujours plus en ce moment, dans le but de se créer un filet de sécurité. On serait à 200 milliards d'euros d'épargne, 21% de leur revenu brut disponible. Mais aujourd'hui, comment améliorer cette éducation financière pour bien placer cette épargne? Comment déjouer peut-être les arnaques qui pullulent sur Internet? Les jeunes et les nouveaux investisseurs doivent-ils être davantage sensibilisés? Comment utiliser les outils digitaux pour se former à tout âge? Trois spécialistes vont nous répondre. On est ravis d'accueillir Claire Castanet. Bonjour Claire.
Bonjour Fabrice.
Vous êtes directrice des relations avec les épargnants et responsable de leur protection, en quelque sorte, à l'AMF.
Tout à fait.
À vos côtés, Stéphanie Lange-Gaumont. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Fabrice.
Directrice de l'éducation financière Banque de France. Là, on est en plein dans le sujet. Et puis, on est ravis également d'accueillir Coralie Boulet. Bonjour Coralie.
Bonjour Fabrice.
Du service carrière d'Open Classroom. Et vous intéressez, enfin vous occupez de l'insertion professionnelle des étudiants qui font appel à ce superbe service en ligne qui vient de faire une très belle levée de fonds. Voilà pour la présentation de cet hebdo spécial éducation financière. C'est parti.
L'hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
Les Français sont-ils nuls en finance? En tout cas, on n'est pas dans le meilleur des classements. Stéphanie Lange, on commence avec vous, directrice de l'éducation financière à la Banque de France. Si on en croit les différentes études qu'on a au sein de l'OCDE, voilà, on est dans la bonne moyenne, mais pas plus.
On est dans la moyenne.
Dans la moyenne.
Et parfaitement résumé, on est vraiment dans la moyenne de l'OCDE en termes de connaissances, en termes d'attitude, en termes de comportement également. C'est à peu près conforme à l'auto-évaluation des Français, c'est-à-dire qu'ils ont conscience qu'ils ont un niveau qui est moyen, à peu près suffisant pour gérer le quotidien, mais qu'ils ont d'importantes marges de progression. Et donc, c'est tout notre travail d'essayer de transmettre de connaissances, de proposer des outils, de susciter des réflexes pour que chacun essaie de gérer au mieux son quotidien.
Le quotidien, c'est-à-dire on sait compter, on sait à peu près ce qu'il y a sur son compte, mais on ne va pas forcément au-delà.
Et ça reste approximatif surtout. Et ça reste approximatif.
Ouais. Hein,
le Français, il a le sentiment qu'il gère à peu près bien son budget, mais si on creuse un peu, c'est approximatif, il y a assez peu de contrôle au niveau des comptes bancaires. Donc dans le comportement et dans les actions au quotidien, on peut nettement améliorer, notamment améliorer la gestion de notre argent.
Bon, on va voir comment dans un instant. Claire Castanet, c'est aussi un sujet, ces épargnants qui ne savent peut-être pas assez bien épargner. Alors épargner, on sait, le Français justement on le disait en introduction, on met de côté, notamment sur nos comptes courants en ce moment, il y a beaucoup d'argent, c'est un peu dommage à le moment où on parle beaucoup de relance et finalement de mettre de l'argent dans le système, dans l'économie.
C'est pour ça que notre action est vraiment centrée sur l'éducation concernant l'épargne financière et à ce titre nous faisons partie du comité stratégique d'éducation financière dont la Banque de France est l'opérateur et donc toute notre action consiste à permettre d'acquérir les bons réflexes d'investissement, bien connaître et comprendre les produits, ça c'est essentiel pour avoir l'approche concrète qu'évoquait Stéphanie et puis également connaître comprendre les horizons d'investissement, les grands principes en fait de diversification, de rapport rendement-risque. Et là, il y a encore à faire.
Ouais, il y a beaucoup de choses à faire. Alors justement, il y a peut-être une révolution qui est en train de s'installer, c'est le e-learning, en tout cas la formation à distance qui est de plus en plus intéressante et passionne les Français aussi. Stéphanie, vous êtes responsable, Coralie, vous êtes Career Services Director Open Classroom. Open Classroom, c'est une start-up, même une scale-up maintenant, puisqu'il y a une très belle levée de fonds, qui s'intéresse justement et qui développe et qui digitalise l'enseignement.
Exactement. Open Classroom a opéré sa troisième levée de fonds avec des fonds comme Lumos, Général Atlantic ou BPI France. On est aujourd'hui près de 500 collaborateurs à œuvrer pour rendre l'éducation accessible à tous et surtout à développer des formations sur des métiers dits en tension, justement pour venir nourrir tout cet écosystème digital qui, aujourd'hui, on n'est pas prêt à revenir en arrière. On a tous des smartphones, on est tous connectés. Et je dis souvent que face au vent du changement, il y en a qui construisent des murs et d'autres des moulins. Et effectivement, Open Classroom s'inscrit dans cette dynamique pour justement diplômer. Donc tous nos diplômes sont certifiés et inscrits au RNCP. Et c'est sur des métiers nouveaux. L'accélération ne va faire que croître avec le temps, forcément. Donc c'est l'avènement de plein de nouveaux métiers comme data analyst, data scientist.
Métiers qui n'existaient pas forcément il y a encore une dizaine d'années. Hein. C'est vraiment des métiers du digital.
Exactement. Et c'est des métiers nouveaux. Donc en fait, en général, le premier sentiment, c'est la peur. Mais il faut savoir transcender cette peur. Et je suis aussi là ce matin pour évangéliser auprès des parents qui ont souvent des conseils assez traditionnels pour leur progéniture, de leur dire que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a effectivement d'autres possibilités de formation que de faire du droit à une école de commerce ou d'être docteur. Et qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux métiers, des nouvelles formations, des nouvelles écoles qui sont aussi bien que les autres et qui permettent de pouvoir accéder à des nouveaux métiers par exemple tout l'univers bancaire est ultra friand de profils de data analyst ou data scientist. Et aujourd'hui nos étudiants à peine diplômés sont déjà chassés sur LinkedIn par les recruteurs.
Donc, et voilà, en plus vous leur apprenez justement à faire un beau profil sur LinkedIn pour être en vue. Le lien effectivement avec le sujet du jour, c'est qu'on peut aussi, et vous avez entamé des actions justement pour former l'ensemble des Français, Stéphanie, justement sur mieux progresser, et ça passe aussi par le digital.
Alors oui, on s'adresse à l'ensemble des Français, mais on essaie de le faire dès le plus jeune âge. Donc on essaie de développer une éducation économique, budgétaire et financière dès le plus jeune âge. En l'occurrence, on a un partenariat étroit avec le ministère de l'Éducation nationale, et on déploie aujourd'hui un passeport EDUCFI pour éducation financière, en classe de 4e. On l'a testé l'an dernier, on va faire 1000 classes cette année, puis 3000. Ça veut dire que 90 000 jeunes, de 13 ans à peu près, vont avoir une première sensibilisation. Alors d'abord, la notion de budget. Donc le budget, les ressources, les dépenses qui peuvent être fixes, variables, occasionnelles, le calcul du reste à vivre, les premières notions d'épargne, de crédit, d'assurance, de moyens de paiement.
Ça, c'est en quelle classe, vous avez dit ?
En quatrième, et c'est déployé par les enseignants, que l'on remercie vivement. Ouais. Et donc, ils le font auprès de leurs propres élèves. C'est des sujets qui les intéressent, parce qu'en fait, on s'aperçoit que les jeunes sont aujourd'hui nombreux à apercevoir un petit argent de poche, même 30 euros par mois, et donc ils le gèrent. Et c'est très frappant aussi de s'apercevoir qu'aujourd'hui, si vous regardez les 15-17 ans, il y a déjà plus de la moitié qui ont un compte bancaire, avec une carte bancaire associée. Et donc ces jeunes-là sont déjà presque... C'est le début de l'autonomie, en fait, dans la gestion de leur budget. Et donc on essaie de leur inculquer ces premiers réflexes pour essayer de gérer au mieux leur quotidien.
Voilà, premier argent de proche, et effectivement, il faut apprendre. Les cartes, vous l'avez dit, on fait l'introduction, sont arrivées dans les poches de nos plus jeunes, c'est vrai. Aussi, malheureusement, certains débordements aussi, Claire Castanet, que vous voyez. Alors, je ne sais pas si ça touche déjà les plus jeunes, mais on voit qu'ils sont déjà soumis à beaucoup de choses, d'informations, peut-être même d'arnaques sur Internet.
Alors, le digital est une bonne chose en tant que tel. Ceci étant, ça peut être aussi le lieu d'arnaque. Et là-dessus, il faut être extrêmement vigilant parce que les arnaques suivent les modes. Et ce que l'on a constaté là sur la dernière année, c'est que l'on voit réapparaître, ou en tout cas un regain pour des arnaques sur le Forex, sur les cryptos.
Le Forex, Foreign Exchange, le marché de devises en particulier.
Tout à fait. Et là-dessus, qu'est-ce qui pêche ? C'est déjà le fait de l'argent facile, du fait que l'on puisse gagner beaucoup d'argent sans connaissance ou en se formant avec quelques heures et quelques vidéos. Donc là-dessus, nous sommes très vigilants. Il y a aussi des arnaques qui touchent des personnes un petit peu plus classiques, l'épargnant, le citoyen. On a vu l'arnaque aux places d'aéroport, de parking d'aéroport, et qui a fait beaucoup de mal et qui a été remplacée par l'arnaque aux chambres d'EHPAD. Là-dessus, qui continue effectivement avec 70 000 euros en moyenne de perdus pour pour les personnes qui nous déclarent être tombées dans l'arnaque, puisque rien n'est investi.
Ouais, rien n'est investi. Il y a des chances de récupérer cet argent pour malheureusement ceux qui nous écoutent qui ont été victimes de ces arnaques, ou c'est très compliqué?
C'est compliqué, il faut porter plainte, puisque c'est la justice qui est en compétence là-dessus et qui doit agir. Donc porter plainte, bien sûr, documenter son dossier, et puis nous prévenir, nous, pour que l'on puisse alerter lorsqu'il y a de nouvelles arnaques qui arrivent.
Ouais, bien sûr. Avant ça et avant les arnaques, mais c'est bien de prévenir aussi les plus jeunes. Donc un premier pas en quatrième, et ensuite il y a plusieurs volets. Hein.
Alors la future génération, on va essayer de les voir trois fois. Hein. D'abord en quatrième, avec cette initiation, donc avec le passeport EDUCFI. Ensuite, on les voit maintenant, on propose un module EDUCFI dans le cadre du service national universel.
Oui.
Donc là, on vise les jeunes de 15 à 17 ans. Et ensuite, on peut les voir une troisième fois en mission locale. Hein. Donc ça, c'est dans le cadre de leur parcours, hein, jusqu'à 25 ans. Et donc, ce sera trois rendez-vous pour cette prochaine génération. Et on espère que ça les aidera, hein, dans leur futur quotidien, pour gérer au mieux leur argent.
Ouais. Stéphanie, si je vous suis bien, c'est râpé pour la génération actuelle. Ceux-là, ils vont rester qu'ancre.
Alors,
mais pour le futur, il y a
des outils. On a quand même des outils, hein, vous le disiez tout à l'heure. On a des outils digitaux, on a le portail Mes questions d'argent. On essaie de s'adresser à tout le monde et on essaie de donner une information neutre, accessible, pédagogique et sans aucune connotation commerciale.
Ouais.
Pour qu'on reste crédible, il faut qu'il n'y ait aucune connotation commerciale dans notre démarche.
Et oui, bien sûr, ou que ça ne soit pas sponsorisé par
Exactement. Une
grande banque, un grand établissement de crédit. Coralie Boulet, de chez Open Classroom, là, on connaît ces outils, on sait aussi la puissance que ça a pour former ces jeunes, et on voit notamment qu'il y a une sorte de gamification. Est-ce que vous utilisez ce genre de module justement pour intéresser vos étudiants?
Effectivement, tout ce qui est gamification, c'est central dans l'éducation. Souvent, les parents sont un peu horrifiés de voir leurs enfants jouer aux jeux vidéo. Donc, je suis là aussi ce matin pour dire que c'est pas grave de jouer aux jeux vidéo. Au contraire, sur la partie recrutement, les professionnels en général, sur tout ce qui est tech, développement web, data et autres, les recruteurs sont assez friands de profils qui jouent aux jeux vidéo. Donc après, c'est comme tout. Il faut savoir, en tant que parent, poser un cadre et des règles. Et puis aussi, s'y intéresser. Les enfants qui jouent aux jeux vidéo sont du coup des enfants qui savent persévérer, qui savent perdre, qui acceptent les règles du jeu, qui savent aussi développer de la créativité, être problem solving. Et souvent, auprès des recruteurs, plutôt que de le cacher comme une maladie honteuse, moi j'encourage les étudiants à le valoriser, à expliquer les jeux auxquels ils jouent. Et puis souvent, les recruteurs qu'ils vont avoir en face d'eux ont 35, 40 ans et sont aussi des gamers. Donc, la bonne nouvelle, c'est que jouer aux jeux vidéo, c'est pas grave. Et surtout, ça entraîne l'esprit à une forme, effectivement, d'intelligence, de réflexion, de persévérance qui est utile. Et du coup, tous les modèles éducatifs calquent la pédagogie aussi sur la gamification. L'école 42 a tout son concept pédagogique qui repose sur cette gamification.
Oui.
Et nous, chez Open Classrooms, c'est une pédagogie par le projet. On acquiert des compétences en faisant. Et c'est en pouvant démontrer et en justifiant qu'on a fait des choses, que l'on a acquis des compétences qui font appel à un référentiel métier,
ouais,
et qui, du coup, justifie qu'on est un professionnel efficace.
Ben c'est sûr que plutôt que de dire « je sais faire des sites web », il vaut mieux montrer ses réalisations, et là, ça convainc davantage. Vous vouliez intervenir concernant justement ces projets ?
Peut-être dire qu'on est aujourd'hui vraiment dans du ludopédagogique, c'est-à-dire que par le jeu, on essaie de transmettre ces messages, et c'est vraiment nous ce qu'on essaie de faire aussi sur la partie éducation financière. Et donc on a un projet de création typiquement aussi de jeux narratifs, hein, pour en fait essayer de en jouant en fait de décliner toutes les étapes de la vie, hein, depuis l'étudiant jusqu'au financement de sa retraite.
Claire Castanet.
Oui, en matière de pédagogie, bien évidemment, le digital, le jeu, les applis mobiles, ce sont des choses qui sont importantes. À l'AMF, nous avons développé l'application mobile FinQuiz pour apprendre la finance en s'amusant. Nous avons une autre application, AMF Protect Épargne, qui permet, alors là, c'est plus de l'information, d'éviter les arnaques en allant consulter les listes des acteurs non autorisés, en faisant un autodiagnostic également lorsqu'on pense être soumis à une escroquerie. Et puis, à côté de ça, bien sûr, le digital. Alors, au travers de notre site internet, avec tous les contenus pédagogiques, évidemment, mais également présents sur les réseaux sociaux, campagnes pour faire passer nos messages, en s'appuyant sur des vidéos, sur des infographies. Donc toute cette matière-là et toutes ces techniques sont intéressantes en matière d'éducation, avec le MOOC AMF-INC également, qui est ouvert jusqu'à aujourd'hui pour apprendre à investir également. En revanche, sur la gamification, lorsqu'on parle d'investissement, il y a un intérêt à ce qu'il y ait une certaine gamification pour rendre l'investissement plus abordable. En revanche, s'il s'agit de réduire l'information à l'extrême, s'il s'agit de créer des stimuli avec des réactions, attention, là, il faut avoir en tête que l'investissement, c'est une chose sérieuse, c'est son avenir financier, et ce sont les limites de l'approche en dehors de la pédagogie.
Alors justement, dans un instant, on va regarder comment on peut déjouer ou faire attention et être plus vigilant, déjouer peut-être certaines arnaques, améliorer sa culture financière. On va en parler avec nos invités. On rappelle juste, tiens, FinQuiz, dont vous venez de parler, Claire Castanet, FIN et Quiz comme le quiz, Q-U-I-Z, hein, l'appli est sur tous les stores, App Store ou Google Play. Donc n'hésitez pas à la télécharger pour les plus jeunes. On se retrouve dans un instant pour l'Hebdo Patrimoine spécial éducation financière. Et voilà, on vient d'écouter Paulo et Pan, Annie Cooney, de la pop acidulée sur l'Hebdo Patrimoine.
L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
Hebdo Patrimoine spécial éducation financière, on est toujours en compagnie de Claire Castanet de l'AMF, Stéphanie Lange-Gaumont, Banque de France, plateau très institutionnel ce matin, Coralie Boulet, Open Classroom. On discute ensemble de bien des moyens d'accompagner les Français dans leur éducation financière. On sait que les Français sont plus fourmis que cigales, et pourtant, Claire Castanet, depuis maintenant un an, depuis finalement le début de la pandémie, on a vu un nombre record de nouveaux investisseurs. On parle de près de 400 000 nouveaux investisseurs. Alors que font-ils ces nouveaux, ils sont sur la bourse, ils sont sur les cryptos, ils font quoi?
Alors, effectivement, en deux ans, si je prends un peu plus large, hein, 2019-2020, nous avons vu 800 000 nouveaux investisseurs sur les marchés d'actions, en comptant l'événement Française des Jeux, fin 2019. Donc l'éducation financière, les bons réflexes d'investissement, c'est extrêmement important. Et on voit que le profil est plus jeune, puisque la moyenne d'âge des nouveaux investisseurs arrivés en 2020 était de 46 ans, ce qui est 12 ans de moins que les investisseurs traditionnels. Donc il y a un enjeu là de formation des gens plus jeunes, plus novices également, puisque 28% avaient moins de 35 ans. Donc ça signifie qu'il y a des personnes qui s'intéressent à la bourse, et c'est une bonne chose. L'AMF le voit comme quelque chose de très positif. En revanche, l'accompagnement, l'éducation, et quelquefois on voit que les connaissances de base ne sont pas présentes, notamment le médiateur de l'AMF a constaté qu'il y avait une multiplication par 5 des litiges qui lui étaient soumis concernant les ordres de bourse.
Oui. Alors que typiquement, ça veut dire qu'on va confondre les ordres de bourse, on ne sait pas exactement ce que c'est, ordre limité, peut-être seuil de déclenchement, des choses qui sont assez simples mais qu'il faut quand même intégrer.
Qu'il faut connaître, alors il suffit d'y passer un petit peu de temps, de regarder, mais en tout cas de passer l'ordre qui correspond à ce que l'on souhaite faire.
Ouais. Bon, en général, on se plante une ou deux fois, et puis après, ça coûte cher, donc on apprend vite hein, quand il y a de l'argent sur la table. Là, c'est la première chose, et puis aussi en termes de diversification. Vous avez noté qu'il n'y avait peut-être pas suffisamment d'éducation, là aussi, de se dire, attention, l'adage qu'on connaît tous, il ne faut pas mettre tous ces dans le même panier, peut-être les gens vont se dire, attends, j'investis sur telle valeur, je mets le paquet là-dessus.
Oui, alors la diversification, elle est à différents titres. Alors, bien sûr, déjà, il faut constituer son épargne de précaution avant d'investir, effectivement, sur des marchés plus risqués, mais on le voit aussi, les Français peuvent avoir tendance à surdimensionner leur épargne de précaution. Alors qu'ils ont des objectifs de long terme, la préparation à la retraite, la préparation à l'éventuelle diminution d'autonomie. Donc des objectifs très très longs. Donc c'est pour cela que l'horizon d'investissement est extrêmement important. Et puis après, on voit des investisseurs, des épargnants qui investissent effectivement en pensant diversifier. Mais en fait, ce n'est pas une vraie diversification. Donc toujours diversifier en matière de classe d'actifs, en matière de sociétés selon leur taille, le secteur géographique, l'activité professionnelle également. Donc c'est ainsi que l'on maîtrisera le risque pour cet investissement de long terme. Et ça, vraiment, il faut avoir en tête que l'investissement en actions est un investissement de long terme qui nécessite cette diversification, mais également un investissement régulier pour lisser les à-coups de la bourse.
Et bien sûr. Surtout en ce moment là, oui, une petite tourmente là avec cette nouvelle vague qui arrive ou ce nouveau variant. La bourse qui chute, ça arrive, c'est pas très grave parce que quand on regarde, c'est vrai, à 5-10 ans, de toute façon c'est lissé et c'est un des placements les plus performants dans le temps. On le sait. Stéphanie Lange-Gaumont, vous êtes directrice de l'éducation financière, la Banque de France. On parlait de risque. Justement, vous avez constaté une mauvaise appréhension du fameux couple risque-rendement.
Oui, tout à fait. On disait là tout à l'heure que la connaissance financière des Français était moyenne, hein, conforme à celle de l'OCDE. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'elle était inégale selon l'âge. C'est-à-dire qu'au plus on est jeune, au moins notre connaissance est affinée. Et c'est normal, c'est l'apprentissage, hein, qui va faire qu'on va, on va améliorer sa connaissance financière, c'est l'expérience. Et en particulier, ce qui pêche chez les plus jeunes, c'est cette appréhension du rapport entre risque et rendement. Ils sont trop nombreux à penser qu'on peut gagner de l'argent facilement sans prendre de risques. Mmh. C'est quelque chose qui est très marqué. Hein. Pour vous donner un ordre d'idée, lorsque vous demandez à des gens, au grand public, est-ce que si on vous offre un rendement important, est-ce que ça veut dire que vous prenez des risques? 60% des Français vont dire oui. Seulement 30% des jeunes.
Ah oui,
seulement 30% des jeunes. Donc vous voyez le gap, hein, il faut que vraiment on progresse sur cet apprentissage du rapport entre risque et rendement. Une autre chose qui est intéressante, hein, c'est de lorsqu'on interroge les Français, qu'on leur demande à partir de quel taux d'intérêt un placement sans risque et liquide vous semble-t-il suspicieux. En moyenne, ils répondent 4%. Donc ça veut dire qu'on n'a pas conscience de l'environnement de taux bas dans lequel on est.
Ouais, ouais.
Et donc ça veut dire qu'on peut être la proie à des tentatives d'arnaque. On a parlé tout à l'heure des arnaques aux investissements, ça pullule. Hein. On a des arnaques aujourd'hui à l'épargne, des arnaques au livret, des arnaques au crédit, des arnaques aux moyens de paiement. Et donc il faut qu'on soit évidemment averti hein, pour essayer d'éviter tous ces pièges hein, qui nous sont adressés. Et encore plus parce que nous avons aujourd'hui beaucoup plus d'outils digitaux. On est beaucoup plus autonome aujourd'hui dans nos choix. Et donc on est la cible, effectivement, d'arnaques plus nombreuses. Claire parlait des arnaques aux investissements tout à l'heure. Moi j'ai un seul chiffre à communiquer, uniquement l'arnaque aux moyens de paiement.
Oui.
1,4 milliard d'euros par an en France.
C'est-à-dire quand on pirate votre carte ?
Carte bancaire, ouais. Chèque, arnaque au prélèvement, arnaque au virement. 1,4 milliard d'euros.
Oui, pour rebondir, vraiment, le placement miracle n'existe pas.
Oui.
Ça, il faut vraiment l'avoir en tête et le marteler. Et effectivement, des rendements même de 3% garantis sans risque, ça n'existe pas. Il ne faut pas y aller. C'est le premier signal que l'on risque d'être face à une escroquerie. Donc là-dessus, c'est un point de repère qu'il faut ancrer dans l'esprit des Français. Il n'y a pas non plus de bons tuyaux. On voit des gens qui nous appellent, qui sont tombés dans des arnaques parce que, soi-disant, il y avait sur les réseaux sociaux le bon tuyau qui marche à tous les coups. Vous imaginez bien que quelqu'un qui aurait un bon tuyau, ça n'existe pas et en plus, il ne le partagerait pas. Donc tout cela, ça signifie que vous risquez d'être face à des individus qui, en fait, cherchent, sous couvert de bons plans partagés, à vous piéger.
Oui.
Il ne faut pas y aller et il faut avoir en tête que l'épargne, c'est un travail de long terme. C'est quand même une construction.
Et oui, donc voilà, il n'y a pas de choses rapides, pas de gains rapides. Alors c'est vrai qu'il y a eu des belles performances, notamment sur les cryptos, hein, dont les jeunes aussi sont friands. Ils vont beaucoup là-dessus en ce moment parce qu'on a eu ces progressions exceptionnelles qui rappellent d'ailleurs un peu la bulle Internet. Bon, après là, c'est une histoire de confiance. Je voulais interroger aussi Coralie Boulet, d'Open Classroom. Vous vous baignez dans le digital, hein, la société, vous avez même... c'était l'école supérieure du digital, c'est ça ?
Oui, j'ai
que vous avez créé,
oui, il y a 7-8 ans, l'école supérieure du digital. En fait, l'école supérieure de publicité m'avait missionné pour monter une nouvelle typologie d'école. Et donc, du coup, je suis allée voir les recruteurs pour leur demander aujourd'hui ce qu'ils recherchaient comme profil à recruter. Et l'insight, qui, voilà, la phrase clé qui m'a permis de pouvoir ensuite dérouler les contenus pédagogiques, c'est qu'on a besoin aujourd'hui de gens qui soient polyvalents sur la technique et la strate. Donc, c'est là que l'ADN de l'école supérieure du digital est née, savoir coder, créer et développer. Tous les étudiants qui m'ont suivi dans cette aventure il y a 7-8 ans sont aujourd'hui tous dans l'emploi, à des très bons jobs et des très bons niveaux de rémunération, qui n'ont pas à rougir face à d'autres écoles dites traditionnelles.
Vous avez le cas d'une élève qui s'est lancée dans le e-commerce,
oui,
génère des chiffres d'affaires assez colossaux.
Mon petit Frankenstein, parce que quand j'ai imaginé cette école il y a 7-8 ans, ça partait aussi d'une expérience personnelle où j'avais moi-même essayé de faire mon site e-commerce. Et à l'époque, je vendais des robes de plage et des maillots de bain sur Internet. Mais j'étais vite limitée parce que je ne savais pas coder, parce que je ne savais pas faire de la créa. Donc du coup, j'étais toujours dépendante de quelqu'un. Donc quand j'ai créé l'école, j'ai vraiment imaginé de pouvoir rendre libre et autonome les étudiants qui allaient devenir des professionnels. Et Solange, qui se reconnaîtra si elle m'entend, a créé son propre site e-commerce en dropshipping et elle génère plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires tous les mois. Elle embauche maintenant du monde et elle a seulement 25 ans. Elle crée aussi des bootcamps digitaux pour transmettre et partager ses compétences.
Et oui, c'est ça la connaissance. Alors je voulais vous interroger sur ce qu'on disait à l'instant, c'est-à-dire quand on entend, effectivement, on sait qu'il y a des techniques de phishing, c'est-à-dire des sites qui matchent, hein, ça peut être le site de l'AMF d'ailleurs, ça peut être n'importe quel site internet qui est en fait un copier-coller, on reçoit beaucoup d'emails, on a des arnaques sur les cartes, on en parlait, plus d'1 milliard de fraudes. Vous qui êtes dans le digital, comment on peut Est-ce qu'il y a des tips, des astuces pour voilà, déjouer tout ça? Vous qui connaissez tout ça par cœur, vous le voyez d'un instant, mais c'est pas évident pour le profane finalement.
Je dirais que pour tout le monde, que ce soit les parents comme les enfants, il faut développer son esprit critique. Donc même, on a un cours chez Open Classrooms qui est développer son esprit critique, qui est aussi valable pour les parents que pour les enfants. Il faut toujours effectivement garder la tête froide, et c'est comme quand on reçoit une fake news ou qu'on reçoit un mail hyper attractif ou alléchant ou une offre avec un rendement exceptionnel. Je pense que tous les outils, tous les nouveaux outils sont formidables. Il faut juste effectivement garder son esprit critique et éduquer les enfants. Plutôt que d'interdire ou dire attention, si tu reçois ça, je t'interdis. Non, il faut expliquer, accompagner, développer l'esprit critique. Tu as le droit de t'intéresser à ces choses-là, mais je t'accompagne. Le fait de nier ou d'interdire n'empêchera pas, vous le savez très bien, les enfants, vos adolescents, de faire ce qu'ils ont envie de faire. Donc plus vous allez les accompagner, les aider, et plus bah, ils seront des adultes avertis.
Et puis on peut citer aussi le, on peut contrôler ça avec le site de l'AMF si le placement paraît un peu bizarre. Il y a des listes noires.
Oui, tout à fait. Nous avons des listes noires, un tableau d'alerte qui permettent effectivement de vérifier et de ne pas tomber dans le piège de sites que nous avons déjà repérés. Ça ne peut pas être exhaustif, mais nous avons quand même encore trop souvent des épargnants qui nous appellent, qui sont tombés dans le piège alors que l'investissement était sur notre liste noire. Je rebondis sur ce que dit Coralie également. Ce qui est très important, c'est de ne pas rester seul lorsqu'on a un doute. Parce que les escrocs essayent très souvent de vous couper finalement, puisqu'il ne faut pas en parler. Et notamment vis-à-vis des jeunes. Lorsqu'on vous propose de bons plans, on a tendance à couper, à vous amener à couper les liens avec votre famille, avec vos amis, pour ne pas partager effectivement cette chance extraordinaire de tomber dans une arnaque. Donc attention, ne restez pas seul, parlez-en. Prenez du recul, consultez les listes noires, déjouez les usurpations également en vérifiant que celui qui vous appelle est bien la personne qu'il prétend être. Et ça, c'est vraiment important, la vigilance qu'il faut développer à tout point de vue. L'épargne, c'est trop sérieux. Il faut être à l'origine de la démarche et non pas réagir en réaction face à des gens qu'on ne connaît pas et qui vous appellent pour vous proposer les meilleurs plans.
D'ailleurs, c'est interdit, hein, démarcher sur des placements financiers. Je crois que c'est...
Sur les produits complexes, c'est absolument interdit.
Complexe. Voilà, en tout cas, le placement miracle n'existe pas. Ça, on le savait, on en a la confirmation. Si c'est trop beau, c'est que, attention, vous allez peut-être être le prochain pigeon de l'arnaque. On continue à parler, non pas d'arnaque, mais de placement financier. Quelle stratégie d'épargne pour s'améliorer tout un chacun sur nos placements? C'est dans un instant la suite de l'Hebdo Patrimoine.
are done by you. Some things look better, baby, just passing through.
Elton John, Dua Lipa, c'était Cold Heart sur Radio Patrimoine.
L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
Les Français sont-ils si nuls que ça en éducation financière, en finance? En tout cas, on tombe souvent, malheureusement, ou trop souvent, dans les arnaques. On l'a vu dans la première partie de l'émission. On peut lutter, on peut bien sûr regarder sur le site de l'AMF et puis se former à tout âge, cultiver notre esprit critique. Nos invités ce matin, Claire Castanet de l'AMF, Stéphanie Lange-Gaumont de la Banque de France, Coralie Boulet, Open Classroom. Claire Castanet, vous avez lancé tout récemment une campagne justement de pub, une des vidéos qui tourne sur les bons comportements à adopter.
Oui, sur les bons comportements à adopter. Alors, notamment, un point qui fait quoi ce que nous venions d'évoquer, c'est la vigilance qu'il faut avoir sur Internet. Et ce que l'on constate, c'est que très souvent, on est moins vigilant sur Internet qu'on ne le serait dans la vraie vie. Et donc, cette campagne, qui est plutôt sympa et qui est un clin d'œil, montre des situations où, finalement, dans la vraie vie, on ne croirait absolument pas à un taux boosté, à des rendements exceptionnels, etc. Alors que sur Internet, on peut se laisser avoir. Donc, il faut vraiment développer cette vigilance. C'est tout à fait essentiel.
Ouais, et l'esprit critique dont nous parlait à l'instant Coralie Boulet. Si on va un petit peu plus loin, justement, Stéphanie Lange-Gaumont, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour mieux utiliser aujourd'hui cette épargne qui est très abondante sur nos livrets, sur nos comptes courants? Est-ce qu'il y a des bonnes moyens d'investir ou se former justement à l'investissement? Alors, on sait que la nouvelle génération va être formée. Mais pour l'ancienne, pour ceux qui sont actuellement là avec leur denier sur leur compte, qui ne savent pas trop quoi faire.
Écoutez, moi Fabrice, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que quand on parle d'épargne, on parle des gens, déjà. Donc avant de parler d'épargne, il faut parler budget. Hein, et aujourd'hui, on a quand même 40% des gens qui ont du mal à joindre les deux bouts.
40%
des gens ont du mal à joindre les deux bouts, sont à découvert au moins une fois par an. Alors sur ces 40%, il y a un petit lot qui a été à découvert par inadvertance, parce qu'ils ont insuffisamment suivi leur compte. Mais il y a un tiers qui ne pourrait pas faire face à une dépense imprévue depuis un mois de salaire. Donc ça veut dire qu'on a un tiers des Français qui n'ont pas d'épargne ou qui ont moins d'un mois d'épargne.
Donc on nous dit qu'il y a une épargne très abondante, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde finalement.
Absolument, absolument. Et ensuite l'idée c'est que lorsque vous avez le budget suffisant qui vous permet de constituer une partie d'épargne, il faut faire ce que disait Claire tout à l'heure. C'est-à-dire au tout départ se constituer une épargne de précaution qui va nous être utile pour faire face à des imprévus, à des accidents de la vie. Et ensuite, Fabrice, ce qu'il faut, c'est essayer de définir son besoin. Et le besoin, ça peut être acheter une voiture, ça peut être financer ses études, ça peut être acheter un bien immobilier, ça peut être aussi préparer sa retraite, voire vouloir transmettre son patrimoine. Et en fonction du besoin, on définit un horizon. Et c'est en fonction de cet horizon et de ce besoin qu'on va aller chercher le meilleur placement qui va parfaitement correspondre à son besoin. Mais il faut faire cette démarche-là, véritablement. Et aujourd'hui, on a moins d'un Français sur deux qui se fixe des objectifs long terme en termes d'épargne.
Ouais, à se dire, je veux ou je voudrais atteindre telle enveloppe ou avoir un projet. Alors, on voit quand même beaucoup de sites qui commencent à proposer ce genre de choses. Et puis, c'est-à-dire raisonner en termes d'objectifs de vie, préparer la retraite, financer une maison, financer les études des enfants. J'ai l'impression que c'est de mieux en mieux fait, ça aussi.
En tout cas, on essaie de donner de la méthodologie. Et après, chacun fait ce qu'il veut en fonction de la vie qu'il entend mener, des besoins qu'il se fixe.
À qui on peut s'adresser? Il y a évidemment son banquier. Après, on sait que là, sur les banques, il y a à boire et à manger en fonction aussi des niveaux des gens. Ça tourne beaucoup dans les banques. Il y a aussi les conseillers en gestion de patrimoine, bien évidemment, Claire Castanet.
Quand on est novice, on a tout intérêt à s'entourer de conseils, en fait, pour arriver à acquérir ces bons réflexes et éviter ce que l'on a vu quelquefois. Nous parlions des jeunes tout à l'heure. l'heure, qui se disent, tiens, pourquoi ne pas mettre mon prêt étudiant finalement le jouer sur des actifs extrêmement volatiles et risqués. Vous évoquiez les cryptos. Non. Il y a un besoin de très court terme. C'est pas encore de l'épargne de précaution, ouais, mais ça permet de construire son parcours par la suite. Et donc, il faut utiliser son prêt étudiant pour ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire payer ses études. Donc, bien sûr, épargne de précaution, je rebondis sur ce que dit Stéphanie, et ensuite diversification quand on le peut, fixer sur ses projets de vie et ses horizons d'investissement. Et sur la retraite, on sait que comme l'investissement en actions est bien adapté en diversification, j'entends, pour ce type d'horizon de très long terme, on a intérêt à démarrer assez vite parce que ça fait des petits, il y a un effet boule de neige à très long terme, mais à la condition de faire des investissements réguliers.
Voilà, on le dit aux plus jeunes qui nous écoutent, hein, commencez dès maintenant, en tout cas dès que vous avez vos premiers salaires, épargner, c'est une très bonne attitude à avoir, ça rassure aussi votre banquier, et puis finalement, pour le prix d'une grosse soirée qu'on va faire, eh ben, on constitue son épargne et ça sert au bout de quelques années. Coralie Boulet, vous justement, vous occupez de ces jeunes ou moins jeunes, en tout cas, parce qu'il y a aussi des gens en reconversion, mais qui s'intéressent à ces nouveaux métiers, des métiers du digital. Alors, j'ai une question à vous poser concernant justement le distanciel versus le présentiel. Horrible néologisme, mais je les emploie quand même, ça parle à tout le monde aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez dans les formations toujours la même appétence pour faire du e-learning à distance, ou bien les gens veulent du contact humain et revenir en salle de classe finalement?
Le modèle Open Classrooms, qui est une école en ligne, fonctionne parce qu'il y a de l'humain. Aujourd'hui, on sait que tous les MOOC qui sont en ligne, les gens terminent la formation à hauteur de 2%. Chez Open Classrooms, on est bien au-delà parce que toutes les semaines...
2%, c'est-à-dire sur une cohorte de 100 personnes, il y en a deux, voilà, qui vont arriver au bout, les autres vont abandonner.
Que vous pouvez trouver dans le monde entier, c'est en général...
Attendez, on va demander parce qu'il y a un MOOC sur l'AMF.
Il y a
là
un MOOC AMF, donc là c'est la deuxième édition. Sur la première, je suis très fière parce que nous étions à 50%.
C'est pas mal. Hein.
Alors
c'est...
en fait, quand je parle de 2%, c'est sur un parcours de formation. Les gens longs vont en autonomie.
Là, on était sur quelques semaines.
Ouais. Voilà. Il faut que ce soit court.
Quand c'est 6 mois ou 1 an, on sait que il faut maintenir les gens dans l'effort. Donc, effectivement, sur quelques semaines, c'est des chiffres excellents. Mais sur une formation de longue distance et où il faut effectivement de la persévérance, on perd les gens quand même assez rapidement. Donc, la formation en distanciel fonctionne parce qu'il y a de l'humain. Et c'est une bonne nouvelle parce que souvent on dit que le digital tue la relation humaine et l'humain. Et au contraire, si le modèle fonctionne, c'est parce que toutes les semaines, nos apprenants ont rendez-vous avec un mentor. Donc, un mentor, c'est quelque part un prof en cours particulier qui vous maintient dans l'effort, qui partage avec vous vos questions, vos inquiétudes, vos doutes, et qui vous maintient dans cette dynamique d'apprendre. Et une fois que les apprenants sont diplômés, ils passent au service carrière d'Open Classrooms, et là, ils sont accompagnés par un coach spécialisé en insertion professionnelle qui permet de les placer dans l'emploi. Donc, le modèle distanciel fonctionne parce qu'il y a de l'humain, avec les mentors, les coachs, mais aussi tout le staff Open Classrooms. Ce qui fait un travail incroyable au quotidien de suivi, d'accompagnement. Souvent, on me dit une école distancielle, c'est moins sérieux qu'une école présentielle. Donc, par le passé, j'étais directrice d'une école présentielle et je peux vous assurer que quand je passais dans les salles de classe en présentiel pour voir ce que faisaient les étudiants, même si on les mettait dans la même salle de classe, je peux vous assurer qu'ils faisaient souvent beaucoup d'autres choses que le cours pour lequel ils étaient réunis. En distanciel, on peut savoir quand est-ce que l'étudiant se connecte, combien de temps il passe sur ses projets, s'il avance bien sur ses projets, s'il avance pas suffisamment vite, on a des alertes pour pouvoir effectivement lui dire qu'est-ce qui se passe, comment on peut t'aider, comment tu peux progresser. Donc l'excellence et l'exigence, elles fonctionnent aussi bien en distanciel. Après, c'est un modèle et tout le monde, tous les apprenants ne sont pas forcément faits pour le modèle distanciel qui demande de l'autonomie, de savoir effectivement travailler seul, de gérer son temps. Et s'il y a beaucoup de gens qui sont sur de la reconversion, la moyenne de nos étudiants a à peu près 30-35 ans. C'est que c'est souvent des gens qui ont une vie de famille et qui ont besoin de pouvoir dégager du temps à un moment où...
Voilà, qui peuvent se connecter le soir ou peut-être très tôt le matin.
Voilà, en tout cas, exactement.
En dehors. Il y en a aussi qui font un double cursus, c'est-à-dire qui ont un métier et puis qui veulent changer et qui suivent comme on ferait une alternance ou des cours du soir finalement.
Bien sûr. Ouais. Il y a des gens qui, sur le terrain, sont devenus data analystes sans forcément avoir le diplôme. Donc, ils restent en emploi et ils font la formation en parallèle pour obtenir le diplôme. Et puis derrière, aller chercher un poste mieux rémunéré ou négocier une augmentation salariale du fait de l'obtention de leur diplôme.
Qui est validé, hein, qui est valide et qui fait office de même diplôme que si on était dans une école en cours physiquement.
Exactement. Donc aujourd'hui, pour obtenir un diplôme, soit on fait effectivement une formation en présentiel, en initial, soit on la fait en distanciel aussi en initial. Il y a aussi le format de l'alternance qui explose, qui est soutenu largement par les initiatives du gouvernement et notamment l'aide exceptionnelle de l'État qui permet aujourd'hui à des étudiants de pouvoir faire des études sans forcément financer ces études.
Ouais.
Et c'est un modèle qui est assez exceptionnel et que nous, on essaye Open Classrooms de déployer à l'international.
Voilà, et ça va évidemment continuer. Très belle levée de fonds, en tout cas pour la société. Hein,
plus de 80 millions de dollars au printemps dernier,
voilà.
Avec BPI, Lumos, Général Atlantique.
Et oui, on y croit, c'est sûrement une des prochaines licornes et on est très fiers de vous recevoir sur le plateau. En synthèse, en résumé, chers amis, on l'a compris, donc il n'y a pas de placement miracle. Hein. Attention, cultivez votre esprit critique, bien évidemment. Soyez sensibles, ce qui existe sur Internet, voilà, si vous le voyez dans la vraie vie, des fois, se dire, mais est-ce que j'y croirais s'il y avait une entreprise qui a pignon sur eux qui le disait. Je vous laisse le mot de la fin, Claire Castanet.
Oui, bien choisir aussi son conseiller, bien choisir ses produits, les comprendre, et bien évidemment, ne jamais croire que l'argent facile existe, construire son épargne au fur et à mesure sur le long terme.
Voilà, des mots de bon sens. Un grand merci à vous trois, Claire Castanet, donc directrice des relations avec les épargnants et responsable également de leur protection à l'AMF, Stéphanie Lange-Gaumand, directrice de l'éducation financière à la Banque de France, et Coralie Boulet, merci beaucoup au service carrière d'Open Classroom. Cette édition se termine, merci à Sophie Bernard pour nous avoir préparé, Théo et Jason à la technique. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Hebdo Patrimoine.
L'Hebdo Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.